Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus folles, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques. Dans ce cas précis, une commissaire priseur, première fois dans l'histoire du podcast, je suis très fière, mais toutes ces personnes ont un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et l'objectif de tout ça, vous aider tout simplement via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, comme je le disais, j'ai le grand plaisir de recevoir sur le podcast Cécile Verdier, qui est donc commissaire priseur et également présidente de Christie's France, la célèbre maison de vente aux enchères. Si l'épisode vous a plu et que le discours de Cécile vous a touché, je suis sûre que ça peut être le cas, eh bien n'hésitez pas à lui dire sur LinkedIn où elle est présente. Je vous préviens tout de suite, Cécile, c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est une sacrée personnalité et j'adore ça. Une fonceuse qui, quand elle a un objectif en tête, ne lâche rien tout en restant humaine et sensible. Et vous le verrez d'ailleurs à la fin de l'épisode, lorsque l'on a abordé le malheureux décès de son frère. Un vrai modèle pour toutes celles et tous ceux qui ont peur de ne pas assez oser. Commissaire priseur donc, experte en objets d'art, Cécile a peu à peu gravi des échelons du monde de l'art pour devenir présidente de Christie's France, son rôle actuel. Pourtant rien ne l'a prédestinée à une telle carrière, ses parents ne sont pas issus de ce monde et Cécile doit se faire toute seule à force de volonté et de travail. Beaucoup de travail. Comme quoi, il n'y a pas de secret et Cécile va nous le confirmer. Et c'est d'ailleurs le message qu'elle nous livre. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher et ne pas rester paralysé par la peur. Oser y aller. Une vraie leçon pour une saine confiance en soi. Un sujet qui me tient à cœur et qui, j'espère, aidera certaines et certains d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cécile Verdier. Bonjour Cécile, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Eh bien merci à vous de nous accueillir ici chez Christie's, c'est absolument fabuleux et j'ai très envie de parler de Christie's en détail, mais avant ça, je voulais remonter aux sources, si vous l'acceptez, parler un petit peu de votre enfance, de votre vie d'avant et puis de votre vocation peut-être pour le beau et l'art parce que j'ai lu que assez jeune finalement vous aviez eu cette envie d'être commissaire priseur. Est-ce que vous pourriez me décrire où vous êtes née, dans quel type de famille vous avez grandi et puis finalement voilà à qui vous étiez en tant que petite fille?
Alors je suis née à Paris, enfin pas à Paris, à Saint-Cloud,
d'accord,
à côté, tout près. Donc je suis une parisienne, j'ai vécu à peu près toute ma vie à part deux ans, même pas, à part un an à Saint-Cloud. Voilà, que vous dire d'autre? Je suis une petite fille assez standard, assez classique, d'une famille assez standard, assez classique, d'une bourgeoisie moyenne classique, rien de particulier.
Plutôt bonne élève?
En fait, je croyais que j'étais bonne élève, j'ai récemment repris mes bulletins et en fait j'étais pas si bonne élève que ça. Mais j'avais un an d'avance, donc ça me donnait peut-être... j'avais pas forcément les notes, mais j'avais une forme de maturité qui faisait qu'on avait dû considérer que je pouvais être dans les niveaux où j'étais. J'étais plutôt enjouée, assez vive, et en même temps un peu timide, comme beaucoup d'enfants. Et que vous dire d'autre? C'est vrai que assez vite, je me suis quand même intéressée aux choses qui étaient plutôt belles. Comme, je veux dire, beaucoup d'enfants, mais non, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais mes parents m'ont beaucoup emmenée au musée, voir les châteaux de la Loire. Voilà. J'ai beaucoup été baignée là-dedans. Mais mes parents ne sont absolument pas collectionneurs. C'est une famille, encore une fois, classique, qui souhaite donner à ses enfants une culture classique dans ses différentes composantes.
Et vous avez eu un coup de cœur, enfin en tout cas une émotion particulière avec le beau, avec l'art en particulier?
Voilà. En revanche, j'ai quelques souvenirs très forts. Hein. J'en ai trois ou quatre. Mes parents n'étaient pas collectionneurs, mais le frère de mon grand-père était un grand collectionneur. Et tous les dimanches, j'allais déjeuner, ou pas tous les dimanches, mais très souvent le dimanche, on allait déjeuner dans cette maison qui se trouvait à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Et où il y avait quelques très belles choses, très beaux tableaux, immobilier classique, mais très beaux tableaux modernes. Il se trouve que quand ce monsieur est décédé, quand j'étais enfant, je l'ai vraiment, mais presque pas connu, mon père était son exécuteur testamentaire. Et donc, pendant des années, on a reçu chez nous des catalogues d'une maison de vente aux enchères qui avait vendu une partie de sa collection. Et c'est mon premier contact, c'est ça. Ce sont les catalogues d'une étude de Versailles qui s'appelait Maître Blache, qui était un commissaire-priseur classique traditionnel, avec des photos de tableaux modernes. Et puis, donc ça, c'est vraiment le premier signe. Ensuite, c'est des week-ends à m'ennuyer dans une maison de campagne et à redécouvrir des connaissances des arts, et me plonger dans ces numéros qui à la fois montraient des tableaux, des œuvres, mais qui aussi montraient des maisons, des intérieurs. Très tôt, je me suis intéressée à l'intérieur. J'aurais pu m'intéresser à être, en fait, d'être décoratrice. Je ne suis pas particulièrement en termes de talent, mais en revanche, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Les intérieurs, l'histoire du goût. Deuxième chose, j'ai un souvenir aussi très fort d'enfance, d'une balade au château de Chenonceau avec une exposition Lalanne et des moutons sur le pont. Alors, j'ai à la fois le souvenir de l'exposition et d'une grande affiche qu'on avait achetée qui devait être dans cette fameuse maison de campagne qui n'était pas située très loin. Voilà, ça c'est une image forte qui est restée. Et puis un petit clin d'œil étonnant, je me souviens parfaitement que pour, je ne sais pas si c'est pour mes 10 ans, 11 ans ou 12 ans, mon grand-père, donc pas du tout lié à celui à cette famille-là, mais de l'autre côté de ma famille, me demandait ce que je voulais. Et je l'avais entraîné dans un magasin qui vendait des luminaires et je voulais une lampe de style. Je ne voulais pas du tout. Et je suis même allée jusqu'à vouloir une poignée de porte de style dans un immeuble moderne. Je voulais une espèce de poignée de porte en bronze doré de style Louis XV, complètement rocaille. Mes parents trouvent ça très curieux, voilà. Donc ça a commencé comme ça, en mettant sur la poignée de ma porte, de ma chambre, d'un appartement, joli appartement, mais moderne, une poignée de porte rocaille.
Donc vous aviez des prédispositions.
En tout cas, ça me fascinait, ça m'intéressait.
Donc j'allais vous demander justement si vous aviez une période en particulier, peut-être dans le milieu de la décoration de l'intérieur, qui vous plaisait à cette époque et qui vous plaît toujours d'ailleurs.
Alors je pense qu'à cette époque, j'avais pas d'idée particulière. J'avais la chance d'enfant de voir des beaux tableaux modernes dans des intérieurs extrêmement classiques, des mobiliers 18e très classiques. Mais il y a deux éléments, c'est que donc j'ai fait Sciences Po. Et très vite, je me suis passionnée pour la période de l'entre-deux-guerres, les années 20, les années 30, à la fois parce que les objets racontaient, c'est-à-dire cette grande qualité extraordinaire qui sont un petit peu les successeurs des grands cabinet makers qu'on dit du XVIIIe siècle, mais dans des formes complètement modernes. Et puis parce que c'était lié à l'histoire de cette époque-là. Mmh. Donc une imbrication toujours pour moi entre la grande histoire et l'histoire des arts décoratifs. Comment on vit l'évolution des mœurs, les évolutions sociologiques, qu'est-ce que ça raconte sur les objets. Exemple, voilà, toujours le, ce qu'on dit chez nous, le big picture, le cadre général dans lequel on se situe et pas uniquement l'objet. C'est l'objet dans un environnement global. C'est toujours ça qui m'a intéressé, cette relation. Et dans les années 20 et 30 aussi, c'est l'apparition de beaucoup de nouveaux matériaux. Et les nouveaux matériaux, c'est aussi du coup des nouvelles formes qu'on peut réaliser. Donc enfant, j'avais pas de goût particulier, mais très vite je me suis intéressée à cette période-là, au XXe siècle, sous la forme des objets. Et puis quand je me suis retrouvée stagiaire à Drouot, alors que je ne connaissais que les tableaux modernes ou à peu près, le monde des objets m'a fascinée. Parce que vraiment, le monde des objets, c'est quelque chose qui est beaucoup plus immédiat, finalement, qui parle à tout le monde. On vit avec des objets, ils sont plus ou moins beaux, plus ou moins de qualité. Mais derrière ces objets, il y a la main de l'homme, il y a un savoir-faire, et le travail des artisans, des restaurateurs. C'est quelque chose qui est complètement découvert en étant stagiaire. Et je me suis plongée dans cet univers du travail de la main.
Quand vous étiez plus jeune, à un moment donné, d'après ce que j'ai lu, mais peut-être que je me suis trompée, vous commencez à envisager justement une carrière dans le monde de l'art, ou en tout cas, si j'ai bien lu, justement, je crois spécifiquement à une carrière de commissaire-priseur.
Ah, j'ai très tôt voulu être commissaire-priseur.
Et en donc, fait, à cause de cette historique, finalement.
Alors, je pense que c'est un peu tout ça. Je me souviens en seconde première, quand on commence à parler des orientations. Donc, on vous parle, je me souviens, les conseils d'orientation vous parlent de BTS, de prépa, de université. Je dis, non, mais moi, je sais même pas ce que c'est. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent, Sciences Po et l'École du Louvre. Alors, pourquoi l'un et l'autre? Je sais pas. Sciences Po, c'était peut-être aussi une grande tradition familiale, mais c'était cette histoire l'histoire des idées politiques et du monde dans lequel on vit, le XXe siècle. Vraiment être en relation avec son environnement d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et puis, l'École du Louvre, parce que j'avais cet intérêt pour l'art. Et mes parents m'ont dit, commence donc par faire le truc sérieux. Donc, j'ai commencé par faire Sciences Po. Mais effectivement, ce métier m'intéressait. Du coup, j'ai fait mes études à Sciences Po, je les ai ratées à la fin parce que j'ai repiqué ma dernière année, j'ai eu plus de temps, j'ai commencé l'histoire de l'art en auditrice libre, j'ai commencé par faire des stages en se tournant autour du sujet et j'ai fini par revenir à ce que j'avais voulu faire, ce qui était d'être commissaire-priseur.
Ce qui est assez original, d'autant plus que vous n'aviez personne, comme vous le disiez, dans votre famille qui était commissaire-priseur. Alors justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un commissaire-priseur et donc je serais assez curieuse d'avoir votre version de quelles sont les missions d'un commissaire-priseur qui est probablement beaucoup plus complexe que l'acte de vente, on va dire, qu'on a tous en tête dans une salle.
Alors, c'est une formidable question parce que je pense que ma mère, qui aujourd'hui a plus de 80 ans, elle me demande régulièrement, et sinon, tu as des ventes en ce moment? Parce que je suis très occupée, tu as des ventes? Non, mais j'ai tout le reste. Parce que la vente, c'est 2 heures, 3 heures, ouais. Mais c'est tout le travail, c'est en amont de cette partie. Et avant de vous répondre en détail sur le commissaire-priseur, moi, ce qui m'a plu aussi, pourquoi j'ai dû aimer ce métier quand j'étais enfant, c'est que j'ai fait énormément de danse classique. Alors, ça a l'air d'être très éloigné, mais le côté spectacle de la vente aux enchères, c'est une donnée qui m'amusait énormément, qui devait me fasciner. Ce côté mise en scène,
c'est vrai que c'est fou.
Ce show, donc ce côté, voilà, un peu... pas chanteuse, j'ai un micro à la main aujourd'hui, c'est pas ça, mais vraiment ce côté on stage et puis d'être chef d'orchestre, c'est ça qui m'intéressait, je pense, aussi beaucoup. Alors, mon métier, c'est quoi? Parce que je suis commissaire-priseur aujourd'hui, même si je ne fais pas que ça, mais un commissaire-priseur, il travaille de façon indépendante, donc il a monté sa propre étude, comme on dit, soit, comme ce qui est mon cas aujourd'hui et de quelques autres personnes dans la maison chez moi, il est salarié d'une grosse maison de vente. Du coup, on n'y fait pas exactement la même chose. Ce qui est commun, c'est qu'on cherche des objets, et qu'après, on va s'occuper de la mise en musique de tout le processus pour les vendre. Donc, chercher des objets, c'est quoi? C'est de connaître des clients, des gens qui vont vous en confier. C'est une fois qu'on les a identifiés, donc entretenir ces relations avec ces personnes qui ont des objets, donc identifier, savoir où on va trouver des œuvres, entretenir ces relations avec les gens. Ensuite, le jour où on vous les confie, vous assurer qu'ils sont bons.
Donc
un énorme travail avec les experts pour savoir ce qu'on a dans les mains. Et puis une fois qu'on est sûr qu'on sait bon, faire toutes les recherches, en tout cas travailler avec les experts pour s'occuper, s'assurer que toutes les recherches sont faites, qui ont pour but de à la fois de savoir ce qu'on vend et de le valoriser au maximum.
Bien sûr.
Ensuite, il va falloir faire un catalogue. Donc comment on présente le catalogue, à comment on va choisir la photographie, quel est le photographe, comment on va organiser tout ça. Qu'est-ce qu'on va mettre avant, est-ce qu'on va mettre après, dans quel ordre on va le placer le catalogue, toute cette conception d'un document physique, qui aussi maintenant se retrouve en digital. Et puis après l'exposition, à quoi va ressembler l'exposition? Comment on va exposer? Pendant combien de jours? À quelle heure on va faire la vente? Est-ce qu'on va exposer dans un salon, 2 salons, 3 salons? Est-ce qu'on va peindre les murs en rouge? Et puis ensuite, comment on va promouvoir tout ça? Est-ce qu'on va faire un cocktail, un dîner? Est-ce qu'on va juste téléphoner à beaucoup, beaucoup d'acheteurs pour qu'ils achètent les objets? Et puis ensuite, il va y avoir le moment de la vente avec son petit marteau.
Le fameux.
on fait cette vente. Les vendeurs nous ont confié leurs intérêts, nous ont demandé de défendre les objets. Donc, on a une estimation. Il y a un prix minimum en dessous duquel on va pas vendre l'objet. Donc, tout notre travail, c'est de le vendre le plus cher possible, puisque le commissaire-priseur, il touche une commission de la part du vendeur et de l'acheteur. Nous ne sommes que des intermédiaires. Nous n'achetons pas d'objets. Donc, c'est la vente. Et puis, une fois que la vente est passée, il faut faire un communiqué de presse pour faire savoir à la presse que ça s'est bien passé. Et puis, en plus, il faut s'assurer que la comptabilité va bien encaisser l'argent auprès des vendeurs. Alors, en général, avant la vente, on a vérifié que les gens qui allaient demander à être appelés pour enchérir était solvable.
Ouais.
Et puis après, on va s'assurer que les acheteurs vont payer et puis qu'ils ont eu un devis de transport. Et puis que l'objet n'a pas été cassé entre-temps, il n'y a pas eu un problème quelconque. Et si c'est le cas, de le faire restaurer. Et puis, on va payer les vendeurs. Voilà, c'est ça
donc
mon métier.
Donc, c'est 2% finalement, le moment avec le marteau.
Donc, évidemment, on ne fait pas tout ça. Mais un commissaire-priseur, c'est un chef d'orchestre. Qu'il travaille à son compte ou dans une grande maison, c'est un chef d'orchestre d'un projet. Et je pense que c'est cette dimension qui m'intéresse. C'est le côté extrêmement varié parce qu'on ne s'ennuie jamais. D'abord, les objets sont toujours différents. Les clients sont toujours différents parce qu'il n'y a pas d'objet sans client. Donc, avant tout, c'est une relation humaine. Et puis, ça change tout le temps. Il faut s'adapter. Et le métier a beaucoup, beaucoup de composantes opérationnelles très différentes.
C'est passionnant parce que, en fait, quand vous l'avez décrit, on a presque l'impression que chaque vente, c'est en fait c'est la création d'une nouvelle entreprise, en fait, à chaque fois. Je veux dire, à chaque fois, on repart, peut-être pas de zéro, parce que j'imagine que vous avez acquis de l'expérience, des contacts, etc. Mais il faut quand même se reprojeter en avant, il faut se réinventer, il faut faire des choses différemment. Et je voulais vous demander à ce propos, est-ce que l'élément, justement, de renouvellement, il est important aussi dans ce métier, dans ces missions de commissaire-priseur, au sens où, il faut quand même à chaque fois attirer l'intérêt, éveiller, communiquer différemment. Donc, je peux imaginer qu'il y a cette dimension aussi de, en permanence, à chaque nouvelle vente, trouver un angle un petit peu différent et nouveau.
Alors, oui, absolument. Ce métier, il est vieux comme le monde. Il existe depuis très, très, très longtemps. On le fait chaque fois. Enfin, on ne fait plus de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait même il y a 10 ou 15 ans. Mais même en intenté, même si aujourd'hui le monde s'accélère, dans les années 40 ou 50, à chaque fois, votre vente est différente parce que l'objet est différent, votre client est différent. Vous essayez de comprendre comment vous allez le convaincre de vous donner l'objet à vendre, et ça, c'est quand même une aventure, parfois. Ils sont parfois plusieurs, ils sont pas d'accord, il faut les mettre d'accord, il faut jouer sur essayer de mettre de rassembler d'être un rassembleur pour réussir à avoir une vente. Il faut leur faire accepter une estimation parce qu'en général quand on a un objet qu'on en a hérité, on pense toujours qu'il vaut beaucoup plus cher que son prix. Il y a aussi des très bonnes découvertes, des objets qu'on n'avait jamais considérés, qu'on n'avait pas investi affectivement et qui en fait valent beaucoup d'argent. Mais donc il y a une part psychologique qui est colossale. Et donc ça, c'est l'adaptation constante. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que vraiment, j'ai pas du tout envie de m'ennuyer. Donc dès que ça commence à être une routine, ça devient un process et donc passer par des étapes. Mais là, je vous ai décrit tout à l'heure les différentes composantes. Ce ne sont pas des étapes, c'est des composantes. Mais à chaque fois, c'est différent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change tout le temps. Et bien sûr, depuis 2 ans, ça change encore plus vite.
Je peux imaginer. Au-delà, vous en parliez en filigrane, mais au-delà d'être commissaire-priseur, en fait, vous êtes aussi dirigeante de Christie's France aujourd'hui. Finalement, comment s'opère une double vie, un peu comme ça? Parce que je peux imaginer qu'il y a des fonctions qui sont générales au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et puis, peut-être que vous continuez vous-même à exercer encore le métier de commissaire-priseur. Alors, je ne sais pas si c'est
Alors,
le cas.
Alors, en fait, je suis un commissaire-priseur beaucoup plus que je l'étais pendant des années. Parce que pendant des années, j'ai dirigé un département d'expertise. Donc, j'étais commissaire-priseur, c'est-à-dire qu'il y avait les 2 petites heures où je tenais le marteau, que ça soit dans mon département ou pour d'autres départements. Mais le reste du temps, j'étais un spécialiste. Donc, je devais trouver les objets, faire le catalogue, etc. J'étais un peu un chef d'orchestre, mais dans mon domaine de la vente. Aujourd'hui, en étant à la tête de Christie's à Paris, c'est comme si j'étais commissaire-priseur à mon compte, sauf que je ne suis pas à mon compte, mais dans une taille d'entreprise qui n'est pas la même. C'est comme j'ai une grosse étude de commissaire-priseur. C'est la plus importante à Paris en taille et en nombre de personnes employées, etc. Donc c'est ça. Mais j'ai bien toutes les composantes du métier avec une équipe pour m'assister. Donc en fait, je suis encore plus commissaire-priseur que je ne l'ai été pendant 10-15 ans où je ne m'occupais qu'un département. Aujourd'hui, je travaille avec les spécialistes des tableaux modernes, des tableaux contemporains, de l'art asiatique, de l'art déco qui est donc mon domaine de design, des bijoux, etc. Donc je travaille vraiment dans toutes les composantes du métier. Je suis plus dans le monde des affaires, je suis moins dans l'expertise. Ça, j'ai plus le temps, malheureusement. Dès que je peux aller voir des objets, j'en suis très heureuse. Je vois beaucoup de clients, mais je les vois à un niveau de conversation qui est un peu au-delà et je suis moins dans la gestion du quotidien, de la vente elle-même. Mais j'ai toujours un regard parce que ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est que quand on rencontre des gens qui vous font confiance et vous leur tenez la main jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire que vous le faites tout seul parce que l'avantage d'être une autre entreprise, c'est que justement, il y a des gens qui font du marketing, des gens qui font de la communication, des gens qui font des catalogues, des gens qui font les expos, etc. Il y a toute cette machine fantastique qui est à ma disposition pour mettre en musique cette aventure qui sera à chaque fois différente. Je prends de la hauteur et j'ai une vue générale et le client, jusqu'au dernier règlement du dernier centime, il sait qu'il peut m'appeler et je suis là pour lui.
Est-ce que vous auriez un souvenir particulièrement marquant dont vous pourriez nous parler dans le cadre évidemment de votre activité de commissaire-priseur? Je sais pas, d'une vente particulière d'un objet qui vous aurait marqué, peut-être aussi d'une relation avec un client en particulier?
Alors, il y en a plusieurs. Parce que c'est un métier uniquement de rencontre et vraiment, pas uniquement, mais c'est largement un métier de rencontre. Il y a des rencontres avec des gens, puis il y a des rencontres avec des objets aussi. Donc je suis un peu en peine de vous dire laquelle, mais je vais vous parler d'une aventure assez récente quand même parce qu'elle a beaucoup compté pour moi et c'était une très belle aventure. Nous avons vendu chez Christie's au mois d'octobre cette année les collections d'une maison qui s'appelle à Paris la Maison de Verre. Qui est une maison qui est dont la façade est entièrement faite de pavés de verre, qui est une maison des années 30, qui a été faite entre 1928 et 1932 par Pierre Charot, donc qui est un grand architecte et décorateur des années 30, et qui se trouve à Paris, dans le 7e arrondissement. Vous ne la voyez pas de la rue parce qu'elle est dans un fond de cour, dans un quartier de Paris qui est un quartier de la quintessence de ce qu'on appelle le Faubourg Saint-Germain, des grandes demeures plutôt 18e. Et les années 30, on était plus courageux qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, littéralement, un client a acheté un hôtel particulier en fond de cour et il l'a fait détruire. Et il a demandé à un architecte de l'époque, qui faisait très peu d'architecture, faisait plutôt du mobilier, mais qui avait une vision très architecturale du meuble, de concevoir une maison moderne pour lui. Donc, c'est comme s'il avait pris un pavé de verre et qu'en plein dans ce quartier 18e, il avait envoyé son pavé de verre pour faire une œuvre moderne. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Tout le quartier est classé, ça serait impossible. Cette maison est classée aujourd'hui d'ailleurs, mais on ne pourrait plus le faire. Et c'est une maison qui a été vendue il y a une quinzaine d'années par la famille des propriétaires d'origine, qui avait réussi à la garder jusqu'au début des années 2000, 2005, 2006, dans leur famille. Mais le mobilier n'avait pas été vendu. Et je connais cette famille depuis les années 2005. Et on a vendu ce mobilier cette année. Et ça a été une aventure assez touchante. Et parce que c'est toujours des rencontres. C'est aussi comment ce mobilier, donc qui a meublé cette maison pendant beaucoup, beaucoup de décennies, raconte l'histoire de cette maison et raconte l'histoire d'une famille. Et l'histoire de cette famille, c'est une famille juive qui, au début du XXe siècle, avait fait fortune. Le grand-père meurt à la guerre. Il n'y a plus qu'une... cette famille a deux enfants, pardon, un garçon et une fille. Leur fils meurt à la guerre de 14. Ils n'ont plus qu'une fille qui a 19 ans à la fin de la guerre. Et qui est donc leur fille unique, avec qui ils veulent faire beaucoup de... Enfin, vraiment le mieux pour elle. Et puis, elle épouse un jeune homme. Et elle rencontre, en fait, via sa préceptrice, qui était une Anglaise, Pierre Charot, qui est le mari de sa préceptrice. Et ces gens qui vont l'éveiller à l'art, ces gens n'ont pas d'enfants. Donc, elle va avoir à côté de ses parents cette espèce de couple qui, pendant toute sa vie, va être à ses côtés et l'éveiller à l'art. Mmh. Et cette famille, donc, elle a l'audace... grâce à ce terrain qu'elle récupère, de demander à Pierre Charot, à qui elle a d'abord commandé quelques meubles pour sa première maison, de construire cette maison. Grâce à lui, elle va rencontrer toute une intelligentsia parisienne des années 30. Mmh. Et puis cette famille va partir pendant la guerre, va se cacher. Ses meubles vont être protégés par une partie de leurs amis. Ils vont les retrouver après la guerre. Et puis ses grands-parents, très avant-gardistes, en fait, après avoir fait cette maison, ils ont inventé le planning familial. Ils étaient communistes. Donc, ça raconte l'histoire des idées. C'est un peu le fil rouge dont je vous parlais. C'est-à-dire que vous avez la grande histoire qui est le nazisme, l'antisémitisme, le communisme, les avancées culturelles. Et puis, une histoire d'une famille qui était imbriquée dans cette histoire et qui est comme résumée dans cette maison avec ce mobilier complètement avant-gardiste. Donc, voilà, ça, c'était très intéressant de raconter cette histoire avec cette famille et de voir comment un lieu peut définir une famille.
Ouais. Et une époque.
Et une époque.
Je voulais rebondir dessus parce que à plusieurs moments, vous nous avez parlé de cette grande histoire et je suis obligée de vous poser cette question de, pour vous, quelle est la valeur principale, la valeur maximale qu'apporte l'art? Alors, c'est une question très large, difficile, mais je sens bien dans vos propos, finalement, que l'art qui parfois est considéré comme quelque chose de parfaitement inutile, de superficiel, quelque chose d'esthétique, en fait, c'est autre chose pour vous. Et donc, je voulais avoir, en fait, vos mots, simplement comprendre qu'est-ce que l'art vous apporte à vous.
Alors, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'en plus, les deux années qu'on vient de passer l'ont encore plus révélé. Pendant 2 ans, les gens étaient enfermés chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on a vu arriver, nous, dans notre métier ? Des gens qui passaient leur vie sur Internet, en général, nos clients, des gens qui voyagent beaucoup, qui ont plusieurs maisons, qui là se sont trouvés bloqués dans leur résidence secondaire, qui passaient leur vie sur Internet, et puis qui ont commencé à se dire, bon, est-ce que je pourrais faire, ah tiens, mais mon salon, j'en peux plus de ces fauteuils, il faudrait les refaire, ah mais on pourrait acheter, qu'est-ce qu'il y a à vendre en ce moment? Les gens ont commencé cette première échappatoire, les ventes aux enchères en ligne, qui ont décollé, qui existaient, ça fait 10 ans qu'on vend en ligne, mais qui ont décollé parce que les gens étaient captifs, ils avaient du temps, et puis c'était l'occasion de s'occuper de son intérieur. On a vu aussi beaucoup d'expositions, beaucoup de musées qui se sont mis à l'art digital. Et c'était un moyen de s'évader, en fait, tout simplement. Vous étiez dans vos 4 murs et tout d'un coup, vous dites, je peux sortir. Alors, vous pouvez aussi regarder des vidéos pendant toute la journée. Je l'ai fait aussi. J'ai regardé des feuilletons, des séries. Je l'ai fait. Je ne l'avais jamais fait. Ça a été l'occasion de le découvrir. Mais ça a été aussi un moyen pour beaucoup de gens de s'échapper par autre chose que les films. Aller voir les collections d'un musée. J'ai même participé à une exposition qui n'a jamais ouverte. C'est-à-dire que au musée Jacques Marandré, une exposition était consacrée à un artiste et en fait, l'exposition devait ouvrir, elle n'est pas ouverte. Donc, ils ont confié à un couple de producteurs de se faire comme des expositions virtuelles en faisant des conversations comme on est en train de le faire. Et donc, j'ai fait ça avec ma fille de 13 ans. En discours, on a choisi quelques tableaux de l'exposition et on les commentait comme si on était dans l'exposition, sauf qu'on n'y était pas. Et c'était très intéressant de faire ça avec un enfant de 12 ans qui partait dans son imaginaire, beaucoup plus concentré qu'elle n'aurait été dans une exposition où il se passe plein de choses, il y a des gens qui rentrent, qui sortent et tout, et commençait à regarder les œuvres. Donc tout ça pour vous dire que je pense que ça a permis de révéler à quel point l'art nous élève, nous permet de découvrir en nous des zones qu'on ne suspecte pas forcément, de sortir de notre quotidien. Il y a le premier niveau qui est de se dire d'avoir un environnement qui est plus joli à regarder, qui nous apaise, mais qui nous nourrit, et qui nous nourrit, qui nous fait rêver, et qui nous fait sortir de nos vies quand elles sont difficiles. Donc pour moi, l'art, c'est une élévation de l'esprit.
Et puis aussi une évasion, effectivement, qui devait être bien bénéfique durant cette période du Covid. Avant qu'on parle un petit peu de vos engagements, je voulais continuer quand même sur le thème commissaire-priseur et comprendre peut-être quelles ont été pour vous ou quelles sont, selon ce que vous constatez, les grandes difficultés du métier. C'est-à-dire que c'est un métier, on a vu, qui est extrêmement complexe, extrêmement dense, avec finalement une chaîne de valeur qui est très large. Si vous aviez à donner 2-3 éléments qui sont pour vous, voilà, les grands défis pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier, quels seraient-ils ?
Alors moi, je vais commencer par... je vais vous parler du défi, mais je vais vous parler de ce qui me plaît profondément. C'est très amusant. C'est un jeu. Ouais. C'est un jeu. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est-à-dire, vous jouez à trouver des objets, vous faites, vous ne créez rien parce que vous ne créez pas de, vous créez éventuellement un décor éphémère, vous faites un catalogue, mais vous ne créez, il n'y a pas de, on ne produit rien. On produit, on raconte une histoire et on la partage. Et ça, c'est la première étape. Et quand on est au marteau, c'est un jeu de rôle. Vous êtes avec votre petit marteau et vous avez une salle devant vous, vous avez des gens au téléphone, vous avez des gens sur Internet que vous ne voyez pas, c'est que vous regardez, mais vous ne les connaissez pas. Vous êtes dans un espèce de jeu et de dialogue avec plein de personnes. Et c'est un grand comédien de théâtre anglais qui m'a appris le métier du, vraiment le commissaire-priseur dans sa dimension, tenir le marteau, qui m'a fait vraiment prendre conscience de cette partie jeu. Et cette partie jeu, elle me sert pour tout le reste. C'est-à-dire, quand vous êtes, il m'a dit, mais Cécile, quand vous êtes au marteau, qu'est-ce qui se passe? Avec qui êtes-vous en relation? Ma première réponse a été, la salle, les gens qui sont dans la salle, les gens qui sont au téléphone, oui, mais plus avant. En fait, il me dit, vous êtes en relation avec la salle comme une entité globale, avec chaque personne de la salle, parce que quand vous les regardez, vous enchérissez avec eux, c'est à eux que vous parlez. Donc, vous êtes de leur côté. La minute d'après, vous êtes avec celui d'à côté, parce que votre objectif, c'est de faire le plus gros prix. Donc, de passer votre temps à parler individuellement à chacun. Donc, vous avez, voilà, il y a les téléphones, mais derrière les gens au téléphone, vous avez les gens qui sont au téléphone avec vos collègues qui sont au téléphone, que vous ne voyez pas, mais vous essayez d'établir un lien avec eux. Et vous êtes en relation aussi avec l'objet qu'on va présenter, ou qui est sur l'image, parce que vous essayez de raconter cette relation-là. Et puis, avec l'écran, etc. Donc, en fait, ce sentiment de relation multiple, il n'est possible parce que vous vous démultipliez.
Ouais.
Et quand vous vous démultipliez, vous êtes un peu extérieur. Il m'avait même dit, vous êtes en relation avec vous-même. Et oui, vous êtes toujours dans une espèce de plusieurs plans comme ça. Vous êtes en relation avec votre, ce qu'on appelle le bouc du commissaire-priseur, sur lequel vous, il y a le numéro de l'eau, le prix de réserve, le nom du vendeur, enfin tout ça. Donc, cette espèce de
mise en
couche successive permet de prendre des distances et du coup, vous commencez à jouer avec tout ça. C'est comme une partition, en fait, que vous allez jouer. Et cette dimension de jeu, pour moi, elle est très importante. Donc, c'est un défi, parce qu'on peut dire, il faut jongler avec les chiffres, il faut jongler avec les téléphones, il faut jongler avec... Mais c'est comme une pièce de théâtre que vous jouez et qui n'est jamais la même, parce que les objets sont tous différents. C'est même pas le même texte, parce que quand vous jouez trois fois la même pièce de Shakespeare, le public n'est pas le même, et je pense qu'il y a cette idée de relation avec le public, mais néanmoins, c'est les mêmes mots, c'est la même... Moi, je raconte une histoire différente, parce que c'est une histoire différente à chaque vente. Donc, c'est un défi, parce que ça suppose une adaptation constante. Mais du coup, c'est grisant. Pour moi, c'est un jeu.
Ouais. C'est passionnant. Je vous imagine avec votre marteau dans cette salle. Et c'est vrai que je suis obligée de vous poser à nouveau la question de vous, ancienne timide, selon vos propres mots, ou en tout cas un peu timide, être face à un public, en plus avec des personnes derrière qu'on ne voit pas, téléphone des enjeux, ça a dû être quelque chose quand même de passer de peut-être une jeune femme réservée à assumer en fait d'être dans ce jeu de rôle.
Mais c'est un jeu, c'est pas vous. Et regardez, les grands comédiens sont en général des gens très timides. Et ils vous le disent, c'est des gens qui ont des tics, et puis dès que la caméra s'ouvre, ah, il y a plus de tics. Donc en fait, je pense que cette dimension de jeu vous permet de mettre des différentes feuilles entre vous et les autres, et donc considérer que c'est pas complètement vous en fait. Je pense que c'est ça. Je sais pas si j'étais vraiment timide, j'étais réservée en fait, parce que moi je dis timide, mais les gens quand je dis ça me disent toi timide, j'étais timide. Donc en fait, j'étais probablement pas timide.
D'accord.
J'étais peut-être moins bien dans ma peau, moins.
Donc
moins,
la prise de parole en public n'a pas été une difficulté pour vous.
Plutôt parler et plutôt quelque chose. Je préfère parler qu'écrire.
Très bien. Je voulais maintenant parler de vos engagements. Vous dites dans une de vos interviews, je l'ai lu, que l'art changera le monde. Et je voulais simplement vous demander qu'est-ce que vous vouliez dire par là.
C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué sur la façon dont l'art nous élève. C'est-à-dire que, par exemple, quand le premier jour où nous avons réouvert, tout a réouvert, enfin en mai, le premier week-end où les galeries ont été ouvertes, moi j'ai fait un tour des galeries. J'ai acheté une œuvre d'un artiste que je ne connaissais pas dans une galerie où je n'étais jamais allée, juste que j'étais avec des amis qui me l'ont présentée. J'ai trouvé l'œuvre belle et je me suis dit, oh, cette échappée formidable. J'ai acheté cette œuvre en 10 minutes. C'était pas des milliers d'euros, mais c'était quand même un peu d'argent. Voilà. Tout d'un coup, ça a donné une dimension. C'était une façon de recréer un lien avec l'extérieur, d'échanger. C'était très important pour cette galerie, ce qui avait été fait maintenant en 2 mois. C'est une petite galerie. Elle avait besoin de voir ses collectionneurs, elle avait besoin de voir ses artistes, elle avait besoin de parler, d'échanger. C'est son métier à elle. D'avoir quelqu'un qui lui dit, elle m'a dit, vous êtes mon premier achat depuis que j'ai réouvert. Voilà. Donc c'est ça qui nous élève. Et c'est toujours, pour moi, l'objet d'art, c'est un lien avec les autres. Donc en fait, c'est aussi un moyen de s'intéresser à des artistes. De, par exemple, il y a peu de temps, il y a 15 jours, j'ai déjeuné avec Eva Jospin. Je la connaissais pas du tout. J'aimais bien son travail. J'avais eu l'occasion de la voir dans ce passage qui a été installé voir Saint-Germain, où une installation qu'elle avait fait en carton. Je sais pas si vous voyez son travail, c'est des cartons découpés qui sont comme des forêts, qui viennent de cartons recyclés, qui avait été installé une première fois dans le 13e dans un entrepôt désaffecté qui avant une remise en travaux. Là, ça a été acheté comme une œuvre pérenne installée. Je trouve que c'est un travail fascinant avec des moyens de rien et comme travail comme de la dentelle. Je trouve assez fascinant. Je l'ai croisé plusieurs fois et puis à l'occasion de quelque chose. J'ai voulu avoir ses coordonnées pour poser quelque chose. Elle me dit, on pourrait se rencontrer. On a déjeuné ensemble. Je pouvais plus m'arrêter de déjeuner avec cette jeune femme que je ne connaissais absolument pas, que j'ai trouvée passionnante, qui m'a parlé des artistes d'une façon dont je n'aurais jamais parlé, parce que on pense que les jeunes artistes, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais elle m'a dit en substance, quand on travaille beaucoup et si on a un peu de talent, je connais pas l'artiste qui travaille beaucoup s'il a pas de talent, qui réussit pas. Ceux qui réussissent pas, c'est qu'ils ont pas de talent, soit ils ont pas travaillé. Je trouve ça très rafraîchissant. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes enfants, alors, qui veut être artiste?
Vous pouvez être artiste.
On peut être artiste. On peut. C'est pas
c'est
se
sûr
dire.
Que c'est pas.
Voilà. Et puis, j'ai compris toute l'économie autour. Donc, en fait, l'art sauvera le monde, c'est que c'est un moyen de communication entre les gens. C'est un vecteur de communication avec les autres.
Oui, d'ouverture du dialogue
d'ouverture,
aussi.
D'ouverture. De curiosité, d'ouverture aux autres, de s'ouvrir sur ce qui passe autour de vous et de pas avoir peur.
Oui. Et puis peut-être aussi de sortir de ses propres idées reçues, de ses propres biais.
Constamment, complètement, absolument.
Vous auriez un exemple peut-être d'une œuvre, alors c'est spécifique comme question, mais une œuvre qui vous aurait marqué parce que justement elle vous a fait changer d'avis, elle vous a fait réfléchir sur un sujet que peut-être avant vous n'aviez pas l'habitude d'évoquer.
Je sais pas, mais il y a une chose que j'ai là, que j'aime beaucoup, je n'avais pas du tout prévu qu'on ait parlé de ça, c'est pas que ça me fait changer la vue, mais voilà. C'est une croix,
ouais.
Je la prends... c'est une croix, comme ça, a priori. Bon, c'est quand même une croix un peu particulière d'un artiste qui s'appelle Alexandre Noll. Un artiste créé dans les années 50, qui travaillait le bois et qui taillait le bois en direct, qui a fait des meubles, il a fait des coupes. Mais il a fait toute une série de croix, comme ça. J'ai toujours trouvé ces croix très, très esthétiques. À la fois, on voit bien que c'est une croix, mais ça ressemble pas à une croix telle qu'on s'attend à la voir. Et puis voilà, je suis dans la religion catholique, mais je suis pas du tout pratiquante. Et c'est le premier objet que j'ai acheté quand je suis arrivée dans ce bureau, dans une galerie qui est au coin de la rue. J'ai toujours aimé ces objets. Il en avait une, c'est mon porte-bonheur. Alors je me dis, mais en fait, comment j'ai acheté une croix? Voilà, c'est une rencontre et cet objet m'a très souvent je le regarde et c'est pas la raison pour laquelle je suis ici, mais c'est la première chose que j'ai amenée dans ce bureau et je l'aime beaucoup parce qu'il a quelque chose. Finalement, c'est pas de quelle époque ça date, si on connaît pas. Moi, je sais que ça date des années 50, mais c'est un objet qui pourrait être ça pourrait être un truc africain taillé dans du bois, ça pourrait être quelque chose d'antique. De loin, on pourrait penser que c'est du métal et pas forcément du bois, en fait c'est un bois dur de l'ébène. Donc je ne sais pas si ça a changé ma façon de voir le monde, mais c'est un objet qui m'a accompagnée très vite. Et puis non, il y a plein d'œuvres après, parce qu'il y a plein d'œuvres qui tout d'un coup, m'émeuvent en fait. Je ne sais pas si elles ont changé ma façon de voir le monde, mais elles m'émeuvent.
C'est déjà quelque chose. Au niveau de vos engagements, il me semble avoir lu que vous aviez un engagement fort, pour la place des femmes dans le monde de l'art. Or, on peut penser que les femmes, a priori, sont présentes dans le monde de l'art, qu'elles ont une sensibilité artistique assez développée, et donc on pourrait penser que, au contraire, elles ont presque une place prépondérante. J'ai déjà eu le privilège d'inviter des personnes comme Orlan, comme Patricia Barbizet, qui aussi apprécient ces sujets, et donc je voulais vous demander, c'est peut-être une question stupide, mais est-ce que vous considérez que les métiers de l'art, et peut-être plus précisément celui de commissaire-priseur, sont des métiers sur lesquels les femmes sont moins représentées ou ont peut-être une place moins importante que ce qu'elles pourraient?
Alors, en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai jamais considéré que c'était différent d'être un homme ou une femme. Et c'est un sujet, une question que je ne me suis jamais posée de ma vie. Mais en revanche, on m'a beaucoup demandé en quoi c'était différent et ce que j'avais fait pour y arriver. J'ai travaillé comme tout le monde, en fait. Je me suis jamais posé ce genre de questions jusqu'au moment où on m'a nommée à ce poste-là. Parce que quand j'ai eu la chance qu'on me propose de prendre la présidence de Christie's, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes que j'avais eues comme stagiaires ou des jeunes filles avec qui j'avais travaillé, qui sont venues voir en me disant, elles étaient très fières, c'était gentil. Ils m'ont dit, vous rendez pas compte ce que ça représente pour nous. Je dis, ah bon, ça représente quoi? Ça veut dire que c'est possible. Attendez, vous avez 25, 35 ans, moi j'en avais 50. J'ai dit, mais attendez, oui, bien sûr que c'est possible. Et tout de suite, j'ai dit, mais Laure de Beauvau était présidente de Sotheby's. Ah oui, mais Laure de Beauvau, c'était une princesse. C'est une princesse de Beauvau. Oui. Et donc, voilà, en fait, le côté, le chemin, c'est-à-dire d'avoir commencé, j'ai pas commencé à l'accueil non plus, hein, je vais être tout à fait honnête, j'ai fait des études supérieures, ouais, ouais. Mais c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé, mais parce que j'aime ça, c'est-à-dire, j'ai pas eu le sentiment de me battre, hein, par exemple, parce que j'étais une femme. Je l'ai fait parce que je me battais dans un univers qui était un univers difficile d'accès quand on n'est pas du sérail. Effectivement, je viens pas d'une famille de commissaires-priseurs. Donc, j'ai jamais considéré que d'être une femme, c'était un sujet particulier. En revanche, j'ai vu dans le regard de ces jeunes femmes que pour elles, c'était un sujet différent. Ouais. Et ça m'a beaucoup mis en colère. Je me dis, mais enfin, comment en 2020, vous pouvez encore penser, enfin, ouais, être formaté pour penser comme ça? Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi on me pose toujours cette question? Juste avant le confinement, je suis invitée à parler de ces sujets avec une jeune femme qui me prépare l'entretien en me disant, oui, alors vraiment, les artistes, les femmes tellement représentées dans l'art et tout. Je dis, mais de quoi vous parlez? Moi, je pense l'inverse de vous, en fait. Je ne vois pas le sujet. Donc, je fais mon intervention sur, en fait, je pense que le premier frein, c'est celui qu'on se met. Moi, j'ai jamais constaté un frein, donc j'ai jamais vu le sujet. Donc, voilà, j'ai travaillé comme mes frères et sœurs, chacun dans son domaine, point. Donc, j'ai pas de sujet. Mais je me suis rendu compte que pour beaucoup de femmes, ça l'était. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi? Et en fait, c'est d'abord, la seule chose importante, c'est l'éducation. C'est comment vous élevez vos enfants. Moi, ma mère travaillait. Elle n'était pas PDG, mais enfin, elle avait un travail important. Elle était chercheure à l'INSERM, elle travaillait tous les jours. Voilà, donc j'ai un modèle de femme qui travaille. Ça me paraît normal. Mes parents m'ont élevée dans l'idée qu'il peut se passer n'importe quoi dans la vie. De toute façon, je dois être autonome. Mais on m'a pas dit, tu es une femme, mais tu dois être autonome. Je dois être autonome comme n'importe quel individu. Donc je pense que ça passe vraiment beaucoup par des modèles qu'on reçoit et par l'éducation qu'on donne à ses enfants. Mais je me suis rendu compte ici que j'étais dans une maison assez classique. Je l'avais peut-être pas vue en tant que telle, parce que j'ai travaillé chez Chrissy's, en fait, il y a beaucoup d'années, et je reviens après plus d'une dizaine d'années. J'étais plus jeune et je me rendais pas compte. C'est une maison anglo-saxonne, plus anglaise qu'américaine, où c'était quand même beaucoup les Eton Boys, comme on dit, qui tenaient la maison. Je m'en étais tout à fait accommodée, donc peut-être que j'étais un peu, c'est-à-dire, je voyais pas le problème, mais je me rendais pas compte, j'aurais pu faire mieux. Mais j'ai fait mon bonhomme de chemin. Donc en fait, ici, je passe mon temps à dire à celles que je sens, que j'ai vues, celles que j'ai retrouvées, qui étaient déjà là quand je suis partie et qui ont grimpé, mais qui, bon, mais vas-y, mais fais-le, prends. Attends pas qu'on te demande, en fait. Donc c'est ça ma valeur de l'exemple, c'est, ben, si tu veux le faire, fais-le, en fait. Parce que, mais c'est le monde du travail en général.
Bien sûr.
Voilà. Donc je pense que le principal frein, il est dans sa tête. Et c'est d'être bien entouré. C'est d'avoir une nounou pour ses enfants. C'est super. C'est des sacrifices, c'est des choix financiers. Mais en même temps, quand tout ça, on peut travailler correctement. C'est aussi choisir le bon compagnon de vie qui accepte que vous fassiez ça. Et puis après, c'est pas un sujet, en fait. C'est juste le monde du travail. Donc mon engagement, il n'est pas tellement de dire la place des femmes. C'est juste, voilà, il n'y a pas de sujet. Allez-y, en fait. Alors peut-être que le monde de l'art le permet plus que d'autres. C'est vrai que le commissaire-priseur, ça a été très longtemps des hommes, il n'y a pas de femme commissaire-priseur. La première, je crois qu'elle a été nommée en 68 et je la connais encore, elle s'appelle Chantal Pechtobadin, mais son père était commissaire-priseur ou notaire, je ne sais plus, mais enfin elle était, et je crois que c'était interdit aux femmes et qu'on a pu, voilà. C'était en 68, il s'est quand même passé 50 ans de plus, donc on n'en est plus tellement là. Je me souviens d'avoir entendu quand j'étais à Drouot, stagiaire, un commissaire-priseur disant, oui, il y a de plus en plus de femmes dans ce métier, comme toute profession qui se dévalorise. J'avais éclaté de rire. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie agressée par le sujet. Je pense que c'est beaucoup une façon d'état d'esprit, pas de se dire, oh, mon Dieu, il pense ça, c'est terrible, je vais me cacher. Et moi, je rigolais. C'est drôle de penser ça. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt un aveu de faiblesse qu'autre chose. Donc, en fait, prendre les choses avec, non pas avec dédain, mais avec distance, et faire ce qu'on a à faire.
Et faire son propre chemin.
Et faire son chemin.
Bah, je vous remercie pour ces paroles, Cécile, franchement, parce que je partage complètement votre état d'esprit et moi-même, j'ai constaté dans mon entreprise, parce que j'ai une entreprise avec une soixantaine de salariés, que très souvent, en fait, c'est les femmes elles-mêmes. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi, on peut le dire, des misogynes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de cas où les femmes elles-mêmes, en fait, se sabotent, tout simplement. Et donc, je trouve ça assez formidable d'avoir un exemple comme vous, de quelqu'un qui, en fait, a tracé sa route, tout simplement, par passion. Donc, peut-être la dernière question sur ce sujet, parce que c'est pas le sujet principal de cet épisode, mais quel message, en fait, auriez-vous envie de faire passer à celles qui nous écoutent, qui peut-être, justement, ne se sentent pas à la hauteur, n'ont pas confiance en elles, se disent « oui, mais moi, je ne peux pas », qui n'ont pas de modèle aussi, peut-être, dans leur métier, dans leur entourage de femmes fortes ou pas, mais qui ont réussi à atteindre les objectifs qu'elles se fixent, elles. Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer?
Se faire confiance, savoir ce qu'on veut et le faire. Et pas le regard, le jugement des autres n'a aucune importance, en fait. Autre anecdote, parce qu'elle a du sens par rapport à tout ça. Hier, c'est la journée des femmes et on a fait un podcast, enfin pas un podcast, mais une conversation entre le bureau de deux seniors, comme je dis aujourd'hui, du bureau de Paris Femmes et puis du bureau de Hong Kong et du bureau de Shanghai. Donc, la patronne marketing Asie, la chairman de Chine continentale, ouais. Enfin, des gros calibres, si je puis dire, de femmes puissantes en Asie. Et donc, ici, une vice-présidente qui est une américaine franco-américaine à Paris. Moi. Et en fait, on racontait un peu, c'était un peu sur tous ces sujets. Et je me suis souvenue d'anecdotes. Je me suis souvenue, par exemple, quand j'étais chez Christie's au début, donc en 97-98, d'abord, j'avais la chance de faire assez jeune, donc on souvent pensait que j'étais la stagiaire, mais je m'en suis jamais vexée, en fait. Ça me faisait ouais. plutôt rire. Et quand peut-être certains spécialistes ont pu déjà... Mais en fait, je n'ai jamais considéré que ça m'interdisait de faire quelque chose. J'ai toujours pris comme un défi et comme une sorte de pirouette avec humour. Voilà. Ou quand quelqu'un pouvait passer dans un bureau en disant « Oh, il y a personne !» Parce qu'en gros, dans mon département, je disais « Bah, si, je suis là !» Donc, en fait, il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut surtout avoir confiance en soi et dire nos rêves, on peut les atteindre. Moi, j'ai deux filles, elles ont 13 et 18 ans, et je leur dis le monde vous appartient. Je leur dis tous les jours ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Mais après, il va juste falloir beaucoup travailler. Mais après, ce sont des choix. J'ai pas quatre enfants, j'en ai que deux parce que d'abord, j'avais pas envie d'en avoir quatre, je l'assume. Et puis que le temps que j'ai, j'avais pas le diviser en quatre, ça n'aurait pas eu de sens. Déjà deux, j'ai commencé à redéfinir. Donc en fait, ce sont des choix. Mais il faut assumer ces choix. Je pense que le problème souvent des femmes, c'est d'hésiter et de pas assumer les choix, de se sentir coupable. Bien sûr, parfois, je me sens coupable de pas être là pour réviser l'interro de maths, mais tant pis, je peux pas. Et bah, je trouve une autre solution pour quelqu'un qui vient l'interro de maths. En fait, il faut faire des choix. Une conférence récemment, une jeune femme m'a dit, vous pensez qu'on peut pas faire carrière en rentrant chez soi à 18h30? Je dis, bah non, on peut pas. Ou alors, vous travaillez après dîner, mais moi, j'ai toujours détesté ça. Mais, enfin, c'est juste travailler, en fait. C'est pas une question d'homme ou de femme.
Bien sûr. Et il n'y a pas de jugement. Certains peuvent vouloir rentrer toute leur vie à 18h30 et c'est très bien.
Et il n'y a pas aucun de problème. Jugement. Chacun ses choix.
Mais c'est ça.
Mais par contre, il faut les assumer et pas s'en plaindre.
Il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Complètement voilà. D'accord. Pour terminer, j'ai toujours des petites questions un petit peu personnelles à la fin du podcast, je vous préviens. Mm-hmm. La première, c'est est-ce que dans votre vie, vous auriez vécu un grand échec ou un grand moment de doute? Et en fait, les conséquences de cet échec et surtout les enseignements que vous en avez tirés?
Bon, j'en ai plein, comme tout le monde, parce que je pense que les choses qui nous font avancer, c'est ça, justement. J'ai même trois exemples très différents.
Allons-y.
Il y en a qui sont assez personnels.
Je me frotte les mains.
Pardon, mais le premier, c'est que j'ai un petit frère qui n'est plus là. Voilà, c'est un enfant qui n'a pas eu la chance de continuer à vivre. Il est mort, il avait 5 ans, voilà. Je m'en suis souvent voulu. Pourquoi moi, je suis là, et lui, il n'est plus là. Et donc, c'est un chemin difficile. C'est fou, parce que je vous parle de ça, alors que c'est quelque chose que je vis très bien. Mais bon, se dire, bon, voilà, ça, moi, j'ai vécu. Je pense que ça m'a donné une force colossale dans la vie. Parce que s'assumer, je me suis dit, moi j'ai la chance d'être là, ben, je vais en profiter, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je me suis très protégée en me disant, moi, il ne m'est rien arrivé.
Ouais.
Je suis là. Donc voilà, ça, c'est un truc assez définitif dans la vie. Ça aurait pu être des trucs très destructeurs. Ça ne m'a pas détruit, ça n'a pas détruit mes parents non plus, ce qui est aussi probablement un modèle de se dire que dans la vie, il y a des choses difficiles. On peut être très privilégié, mais néanmoins vu des choses horribles, ben, on avance. Quoi. Et il y a plein de choses formidables à trouver sur le chemin. Voilà, donc ça, c'est peut-être le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, je vous l'ai dit, donc j'ai fait Sciences Po, assez jeune, j'étais un peu immature, je pense, pour le faire, et donc j'ai repiqué ma dernière année de Sciences Po. J'avais jamais raté, j'étais bonne élève, j'étais pas brillantiste, mais j'étais bonne élève. Puis un jour, vous ratez, c'est un truc horrible, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais dans un état d'angoisse, j'ai vécu une année très difficile. J'ai découvert aussi que, vivant dans une famille où on m'avait toujours dit, comme le bac, on le donne, va falloir beaucoup travailler... Mais j'avais toujours travaillé, mais que là, quand j'ai raté, mais ils ont été premiers à me dire, mais c'est pas grave. Ah bon, c'est pas si grave. On a le droit de respirer, on peut. Donc ça, c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis mis vraiment à l'histoire de l'art. Et j'aurais jamais peut-être été au bout de ce rêve si j'avais pas raté ma dernière année de Sciences Po. Je suis pas rentrée à HEC derrière parce que j'avais plus envie, je suis rentrée, enfin, troisième cycle en marketing, mais voilà. Mais ça permet de dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Ouais. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Donc, quand on rate, on va vers l'essentiel.
Cet échec vous a permis, en fait, de tout simplement vraiment réfléchir et de faire une pause, quoi.
Et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et de le faire. Donc, en fait, tous les échecs nous font grandir.
Quel est le troisième exemple?
Alors, je vais en parler de façon... J'étais dans une autre maison, comme on dit élégamment dans le passé. Et puis, tout d'un coup, j'avais 48 ou 49 ans, il y avait une possibilité d'évoluer pour un poste. Puis moi, j'étais la bonne élève, j'ai toujours voulu un truc, je l'ai toujours eu, en fait. Et puis un jour, on n'est plus que deux en finale.
Vous avez bossé pour.
Oui, d'accord. On est deux en finale, et puis le poste, finalement, je ne l'ai pas. Je suis vexée au dernier degré. Je sais, c'est dingue, pourquoi? Et surtout, quand je vois la personne qui nomme pour ce poste, que je trouve, je comprends qu'elle est très agréable, mais je vois pas en quoi cette personne le ferait mieux que moi. Du coup, bon, une fois avalé cette couleur, j'ai demandé autre chose. Je ne serais pas aujourd'hui présidente de Christie's si j'avais pas eu ce poste-là. Parce que, Quand on m'a proposé ce poste, ça a été une décision extrêmement difficile. C'était très honorifique, mais c'était d'abord un gros saut en avant, enfin une énorme marche à monter. C'était beaucoup de travail en perspective. C'était aussi quitter des gens avec qui j'avais passé 10 ans que j'avais adoré, une maison dans laquelle j'avais été très heureuse, j'avais beaucoup grandi. Mais en fait, elle ne me proposait pas l'étape d'après. Bon, ben qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, on me propose ce truc, c'est formidable, regardez comme un rêve inassouvi de ne pas l'avoir fait, avec éventuellement des regrets de me dire j'aurais dû le faire. Ou me dire, ça va être dur, mais on me le propose. Si on me le propose, c'est qu'ils pensent que je suis capable de le faire. En plus, c'était pour rejoindre quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, donc il me connaissait. C'était pas une erreur de casting, a priori. Si je le fais pas, je vais le regretter. Et la vie, c'est une fois. Et donc, faut le faire. Et bien sûr, ça a été souvent très dur, parce qu'au bout de 6 mois, on a eu le Covid, donc j'ai quand même beaucoup de sujets à gérer. Mais jamais, 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 j'ai regretté. Et c'est souvent dur. Mais tous les jours, je continue à monter ma pente. Et c'est ça qui est important, c'est le chemin qu'on construit. Alors après, on arrive à des âges, enfin le mien, pardon, je suis un peu plus âgée que vous, mais où on sent bien que voilà, il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Alors, chacun n'avance pas de la même façon, sur les mêmes terrains. Puis, j'avance pas que sur ce terrain-là aussi, j'avance dans d'autres terrains, mais il faut faire ce qu'on a à faire.
Vous voulez dire,
il faut pas se sentir coupable.
Vous voulez dire, quand vous voulez dire, je suis désolée de vous interrompre, avancer, continuer à avancer, c'est cette notion de ne pas stagner, de progrès dans un domaine quel qu'il soit, ça peut être personnel, professionnel, enfin,
s'enrichir, se remettre en cause, pas considérer que les choses sont acquises, qu'on est dans le petit plan-plan, mais sinon j'aurais choisi un autre métier peut-être, mais enfin dans tous les métiers, on peut le faire de façon plan-plan ou pas plan-plan, on peut être cordonnier et apprendre à manier des manières différentes et tout d'un coup faire une ligne de cordonnerie comme on peut finalement vouloir juste toute sa vie faire très très bien son métier. Donc il y a pas de chacun a un chemin différent et il faut le prendre tout simplement. Parce que regretter, je crois qu'il n'y a rien de pire.
Alors ça m'amène justement à la deuxième question que je pose toujours, c'est s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? C'est pas forcément un regret, mais une pensée.
Je sais pas, sûrement plein, mais en même temps, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je ferais différemment? Peut-être que je ferais plus de sport, hein, j'en fais toujours pas. peut-être que...
Vous prendriez des petits déjeuners?
Oui, mais régulièrement, j'essaie et puis j'arrête, donc c'est pas mon truc, c'est comme le sport. Donc non, qu'est-ce que je ferais différemment? Non, je suis contente d'avoir pris le temps d'attendre des enfants un peu tard et pas les avoir trop tôt. Ça, je pense que c'est très important.
Vous les avez eu à quel âge?
36 et 41. Voilà, faut prendre le temps de choisir la bonne personne pour vous accompagner dans votre vie. Il faut prendre le temps, en fait. Faut pas, voilà. J'ai beaucoup voyagé. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'aurais peut-être pu commencer à acheter des objets importants d'art plus tôt. J'ai pas eu assez de courage, parfois, de me dire c'est quand même une grosse somme et j'aurais dû le faire. Ça, j'aurais dû, parfois. À la fois parce que c'était des bons choix et que j'avais quand même pas un mauvais instinct, j'aurais dû le faire parce que financièrement, c'était intéressant. Et puis, c'est cette idée de se challenger un peu. Peut-être ça, j'aurais pu.
Est-ce qu'il y a une citation, une maxime, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, que peut-être de temps en temps vous vous répétez, qui sont notés quelque part dans un carnet, un calepin, que vous pourriez partager avec nous?
Non, je suis pas très...
Vous n'êtes pas très citation?
Quand je les trouve belles et je les garde, mais je les oublie aussi vite. Voilà, non, je suis pas très... Je suis plus dans des modèles de gens qui m'ont impressionné plutôt que dans des mots.
Vous disiez d'ailleurs que vous préférez l'oral à l'écrit, donc... C'est noté. Encore une question, est-ce qu'il y a une idée reçue, une idée, une croyance que vous constatez autour de vous, que vous trouvez en fait fausse? Donc, c'est-à-dire tout simplement que vous n'êtes pas d'accord avec une forme d'idéologie. Ce que je veux dire par là, c'est, j'ai eu sur le podcast un mentaliste une fois qui me dit, bah, en fait, il y a une croyance dans le monde qui est que les personnes plus âgées, très âgées, sont plus sages. En fait, non, il y a plein de biais cognitifs, plus on est âgé, et puis on devient un peu sénile, quoi, tout simplement.
C'est vrai.
Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc c'est un exemple hein, parmi d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous marque comme étant un peu non politiquement correct?
Alors, par principe, je déteste le politiquement correct. Donc, en général, j'aime bien, quand on me dit une réputation au bureau, c'est quand on me dit non, je dis comme ça va être oui, comment on va y arriver, en fait. Donc, voilà, donc dès que c'est politiquement correct, moi, la diversité and inclusion, l'écologie, tout ça... C'est formidable, mais par contre, quand il faut les afficher, c'est insupportable. Ça devient démagogique et je déteste la démagogie. Je déteste les idéologues.
C'est-à-dire
ça
ne
m'intéresse
vrai,
pas. C'est vrai et c'est sincère et c'est porté et c'est vécu. Mais les grands principes pas appliqués, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est plutôt ça, le politiquement correct, entre les vélos et le reste, donc c'est pas du tout politiquement correct ce que je vous dis, hein. Mon Dieu, je fais tout ce qu'il faut pas dire.
Parfait, non, c'est
mais,
tout ce que j'aime.
Mais aussi, c'est la place. Encore une fois, la jeune femme qui était venue me parler des femmes, c'est clairement plus difficile les femmes dans l'art. Je dis ah bon pourquoi? Et ça me mettait quasiment en colère parce que c'est une façon de se considérer comme une minorité et ça m'intéresse tellement pas. Je trouve ça tellement c'est être dans la plainte, c'est être dans le, alors que, et le combat, c'est pas forcément la dureté, quoi. Le combat, c'est un jeu, en fait. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est un jeu. Et surtout, c'est super de gagner, en fait.
Dernière question. Est-ce qu'il y a, et je vois qu'on est entouré de beaucoup de livres ici, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui sont des livres peut-être qui vous ont formé, qui vous ont appris le monde de l'art, enfin, ou dans d'autres domaines, peu importe, que vous pourriez partager avec nous?
Alors d'abord, en général, j'aime beaucoup les biographies, parce que j'aime beaucoup les parcours individuels, et ce qu'elles racontent sur une personne dans l'histoire. Je suis un peu toujours dans mon histoire.
Une en particulier?
Alors, il y a quelqu'un qui a été un marchand d'art, mais c'est pas du tout sa partie art que j'ai lu, qui m'a passionnée. C'est le livre de Daniel Cordier. Et tout d'un coup, je cherche ce titre. Pourtant, ça raconte ses années de guerre. Je vais vous retrouver le titre dans un instant. C'est un livre où il a raconté, en fait, son engagement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était un jeune homme d'une famille du Sud-Ouest et puis d'une famille d'Action française, plutôt antisémite, très classique, traditionnelle, qui suivait à fond, était contre l'Action française. Et puis tout d'un coup, il y a la capitulation française, l'appel du maréchal Pourtant, il faut baisser les armes, arrêter le combat. Et il dit, c'est pas possible. Et avec son beau-père, il part à Biarritz, ils prennent tous un bateau pour l'Angleterre. Et le chemin de ce jeune homme qui devient donc jeune homme d'une famille bourgeoise provinciale qui très traditionnelle, qui part à Londres, qui suit cet engagement sur la France peut pas capituler comme ça, qui va être parachuté en France et qui va être le secrétaire de Jean Moulin, ça s'appelle Alias Caracalla, qui va parachuter, qui va être le secrétaire de Jean Moulin sans savoir que c'est Jean Moulin qui s'appelle Jean Moulin, qui va unifier les réseaux de la résistance en France, est assez passionnant parce qu'il raconte ça comme un roman d'aventure. Et il y a un moment très fort où il se retrouve à l'Arc de Triomphe à Paris parce qu'il a rendez-vous avec je sais pas quel membre du réseau. Il arrive très en avance et donc il va s'installer à la terrasse d'un café. Et tout d'un coup, il voit passer un vieillard avec un petit garçon qui marche difficilement, qui est habillé un peu, vraiment sont très pauvrement, et avec une énorme étoile jaune. Et là, il réalise ce que c'est que l'antisémitisme. Alors, je n'ai aucun lien avec le judaïsme, mais cette histoire sur comment on peut se rendre compte qu'on s'est trompé et se dire, mais comment j'ai pu, derrière un idéal, voir ce que ça voulait dire réellement pour une personne, c'est une révélation, ça change sa vie, ça change complètement sa vie. C'est quelqu'un qui, en plus, sera révélé plus tard, c'est un homosexuel, il est devenu un grand marchand d'art, et puis il a fait une grande donation au Centre Pompidou, il est mort l'année dernière, Daniel Cordier. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup remué, sur le côté, on prend en main son destin et on fait des choix et on n'a pas peur et on peut se renier, on peut avoir fait des erreurs. C'est un livre formidable à lire, probablement pour des jeunes adolescents. Moi, j'avais pas lu ce livre à 17 ou 18 ans. C'est un vrai roman d'aventure, mais très positif. Pourtant, le héros meurt, puisque Jean Moulin est capturé et meurt. Mais c'est un livre qui vous sort de votre dimension, de vos petits tracas, de vos plaintes. Vous êtes vraiment dans la grande histoire et vous mesurez que ces gens-là ont eu un courage fou. Alors peut-être qu'en plus je vous raconte ça avec ce qui se passe en ce moment, mais même pas, parce que c'est un livre que j'ai lu dans mon année. J'ai eu une année de battement tant que je travaillais pas. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup, beaucoup de biographies parce que j'aime bien cette dimension à chaque fois. Mais celle-ci, elle était passionnante pour ce que ça racontait sur le chemin de chacun.
Ça donne absolument envie de le dévorer et je vous remercie parce que je ne connaissais pas, donc c'est bien noté. Cécile, merci mille fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour terminer, si jamais on veut, alors suivre Christie's, bien sûr, ça se passe sur internet, sur le site internet, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr,
ouais.
Et vous, à titre personnel, si jamais on veut vous stocker, suivre un peu vos actualités, ça se passe peut-être sur LinkedIn? Un petit peu?
Alors non, j'y suis, mais j'y vais jamais, parce que je suis pas du tout aux réseaux sociaux, mais Instagram, j'ai un Instagram que privé. Et je suis pas sur Facebook, parce que je n'aime pas les communautés. Moi, j'aime les individus et j'aime les images, donc je suis sur Instagram.
D'accord. C'est Instagram Cécile Verdier, tout simplement.
Hein, ça s'appelle 16verde1.
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 Très bien.
Et voilà, comme ça, on me trouve pas forcément. Et puis surtout, il faut venir voir nos expositions parce qu'elles sont ouvertes à toutes.
C'est ça.
Et je le redis d'une façon très, je suis pas du tout commerciale, mais d'une façon franchement très généreuse. Chez nous, c'est ouvert, hein, c'est fait pour venir voir des œuvres, les découvrir. On est là pour apprendre à chacun qu'on peut vivre avec l'art. On n'est pas dans un musée éphémère, on est dans un lieu où on va vous montrer que les correspondances entre un tableau, une sculpture d'art africain, un bijou, OK, on vend des choses très chères, mais il y a aussi des choses moins chères. Et de toute façon, ça peut vous inspirer pour aller entre des choses moins chères ailleurs. Mais on est un lieu de partage. On n'est pas du tout un lieu réservé à une élite. Et c'est vraiment un endroit où on apprend beaucoup de choses et on accueille tout le monde avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de plaisir.
Donc, 9 avenue Métignon.
Absolument.
on peut pousser la porte. Il
mais
faut
quand
pas
vous
avoir
voulez.
Peur,
d'ailleurs, maintenant, on a une grande vitrine sur la rue, donc on a quand même l'impression qu'on est plus ouvert sur l'extérieur et qu'on peut vraiment rentrer un peu comme dans une boutique, même
le
sans
message.
Acheter.
Exactement, le message est passé. Merci mille fois, Cécile.
Je vous remercie. À bientôt.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.